Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol. Ce nouvel épisode, c'est le 12e épisode, si je ne me trompe pas, de la 3e saison de Popol, rien que ça. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Assia Ifi. Bonjour Assia.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu ?
Je vais très bien, je suis très contente d'être avec vous toutes cet après-midi. Je pense qu'on va avoir des échanges très intéressants.
Certainement, oui. Je n'en doute pas non plus. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît ?
Alors, je m'appelle Assia Ifi, je suis militante écologiste, féministe et antiraciste. J'ai d'ailleurs cofondé l'Observatoire du racisme en politique que j'ai créé avec Nadera Beltrèche, ancienne candidate NUPES en Essonne, et qui a été lancé officiellement le 3 décembre dernier.
Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu des activités que vous menez à travers cet observatoire, s'il te plaît ?
Alors, la première grosse activité qu'on a menée, c'est de lancer une enquête auprès des députés, il y a très récemment, là, pour le 21 mars, pour à peu près savoir combien de députés sont racisés ou se considèrent racisés. Cela permet d'avoir en fait des données objectives sur le nombre de personnes racisées au sein de l'Assemblée nationale. Donc en fait, c'est complètement dans la continuité de nos actions, puisqu'on aimerait faire sauter ces plafonds de verre qu'il y a pour les personnes racisées en politique et au sein, plus particulièrement, des partis politiques. Donc, on va mener pas mal d'actions dans ce sens pour, on espère qu'en 2027, il y ait plus de députés racisés au sein des institutions de manière générale, en réalité, et qu'on ait enfin un programme antiraciste digne de ce nom. Surtout dans cette séquence où l'extrême droite et la parole raciste se normalisent.
Carrément. Est-ce que tu peux partager les résultats de l'enquête avec nous en quelques mots ?
Alors, sans grande surprise, à vrai dire, on a très peu de députés qui ont pris le temps de répondre à cette enquête. Donc, on va faire en sorte de mener également une enquête probablement au Sénat et au sein du Parlement européen, pour avoir des données un peu plus objectives et pertinentes, et probablement peut-être relancer une enquête au sein de l'Assemblée nationale. La séquence, en même temps, elle s'est chevauchée avec le combat à l'Assemblée nationale contre la réforme des retraites. Donc, on ne sait pas si c'est un manque d'intérêt ou si c'est juste un problème de timing. Donc, ça sera probablement à refaire.
Ça marche. Merci beaucoup, Assia. Et aussi avec nous aujourd'hui, Anne-Claire Ruel. Bonjour, Anne-Claire.
Bonjour, bonjour à toutes.
Comment vas-tu ?
Ben, ça va très bien.
Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît ?
Oh, il faut s'allonger, c'est ça ? Alors je...
Ouais, c'est ça, exactement.
Bonjour, je m'appelle donc Anne-Claire Ruel, je suis enseignante en communication politique à la Sorbonne Paris Nord. Je fais du conseil éditorial et je suis aussi fondatrice d'un compte Instagram. Et tu es venue d'ailleurs, tu as été invitée à ce compte Instagram qui s'appelle Colpol. Alors, call comme un appel, C-A-2-L, et Paul comme Popol, en fait. C'est une conversation entre... On est 14 aujourd'hui. Il y a des journalistes, mais il n'y a pas que des journalistes. Il y a Raphaël Yorka, par exemple, qui est communicant. On a Marie-Pierre Haddad, qui est journaliste sur RTL. On a Emilio Mestley, qui est journaliste à l'Humanité. Mais on a aussi Romain Planchon, qui est journaliste au Figaro. Et tout ce petit monde discute, en fait, sur Instagram. Et alors, plus que discuter sur Instagram, c'est discuter sur WhatsApp. Et ensuite, je screen la conversation et je la diffuse sur Insta. C'est conceptuel, mais faites un tour sur le compte Instagram, vous allez comprendre très vite de quoi il s'agit. Et puis, on invite des gens qu'on a envie d'entendre sur des sujets particuliers de l'actualité. Donc, on t'avait reçu suite au 8 mars, notamment. C'était super intéressant. On a reçu Sandrine Rousseau, et là on va recevoir Jacques Attali par exemple. Donc c'est vraiment tout azimut en termes de posture, d'idées développées. Ce qui nous intéresse, c'est plus la vie des idées en fait, et de discuter de ça de manière un peu décontractée. Et c'est vraiment une nouvelle génération de décrypteurs, parce que je crois que la plus jeune doit avoir 27 ans, je crois, et je suis la personne la plus âgée de ce groupe. Donc voilà.
Super, merci beaucoup Anne-Claire. Et enfin, dernière invitée de ce nouvel épisode de Popol, Angela Di Pastena. Bonjour Angela.
Bonjour Léa, bonjour tout le monde.
Comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va plutôt bien, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Et toi, tu ne vas pas non plus échapper à l'exercice.
J'avais bien compris.
veux-tu bien nous parler de toi, s'il te plaît ?
Alors, du coup, moi, je suis la moins connue du groupe. Comment me définir ? Ben, généralement, en milieu militant, on aime bien dire qu'on est plutôt femme cis, genre hétéro. Moi, d'habitude, dans des milieux moins militants, j'aime bien me définir comme une petite fille d'immigrés italiens. Donc, je suis binationale franco-italienne. Au niveau de mes valeurs et de mes engagements, il n'y a pas de surprise. Hein, je suis féministe depuis de longues années. J'essaye de m'éduquer à l'anarcha-féminisme depuis quelques temps. Voilà, je trouve que c'est en tout cas une vision peu connue et qui mérite d'être développée à l'heure actuelle au regard des enjeux. Voilà.
J'ai lu, tiens, à ce sujet, je fais une petite parenthèse, excuse-moi,
Allez.
Mais le livre de Chiara Bottecci.
Ah, c'est
sur l'anarcho-féminisme.
L'anarcho-féminisme, exactement. Et bah, c'est mon prochain
petite référence pour celles et ceux qui nous écoutent. Excellent
bon bah
ouvrage. Merci beaucoup Angela, et merci beaucoup à toutes les trois d'être donc présentes sur ce nouvel épisode de Popol. Aujourd'hui, on n'échappe pas à la règle nous non plus, on va parler de deux sujets d'actualité politique. Nous allons d'abord parler de Mayotte et ensuite nous parlerons de la crise politique qui ne cesse de s'enliser en France. L'opération Wambushu a été lancée par le gouvernement français le 25 avril à Mayotte. Cette opération vise à expulser des centaines de personnes de cette île et à détruire leur habitat. La raison ? Le fait que ces dernières n'aient pas la nationalité française et qu'elles seraient donc en situation irrégulière dans ce département français. Dans ce territoire, devenu département français en 2009 suite à un rattachement décidé en toute violation du droit international, l'État a décidé de mener une opération d'une extrême violence et dont l'objectif est vraisemblablement de réduire à néant des centaines de vies. Pour ce faire, une unité spéciale de maintien de l'ordre, la CRS-8, a été déployée. Dès le premier jour de son intervention, elle a assumé avoir ouvert le feu à 12 reprises en tirant vers le sol pour repousser les personnes qui lui résistaient. En parallèle, le vice-président de Mayotte, Salim Mdéré, élu centriste et soutien de la majorité présidentielle, a appelé au meurtre en prononçant ces mots sur le plateau de la chaîne de télévision La Première. Je cite « Ces délinquants, ces voyous, ces terroristes, à un moment donné, il faut peut-être en tuer ». Qu'en pensez-vous ? Cette situation particulièrement inquiétante ne vient-elle pas finalement nous confirmer que le gouvernement s'enferme dans une conception chaque jour plus inhumaine de l'exercice du pouvoir ? Angela, qu'en penses-tu ?
Eh ben, écoute, tu as résumé pas mal de mots-clés que j'avais moi-même travaillé. Déjà, je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse évoquer ce sujet aujourd'hui. Moi, j'avais partagé quelques infos sur les réseaux sociaux, mais je m'y étais pas intéressée de si près que ça, finalement. Donc, ça a été l'occasion pour moi de me pencher un peu plus sur cette question. Il y a, à mon sens, pas mal de thématiques. Cette violence extrême que tu venais de nommer, cet amalgame qui est sans cesse fait par l'État français entre l'immigration et la délinquance, qui est vraiment assez abominable. La déshumanisation des populations locales, où on a un regard de métropole qui est très, finalement, très colonial. Voilà, il y a pas mal de choses. Moi, j'ai trouvé ça assez révoltant de m'y pencher de façon plus rapprochée. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter.
Oui, oui, mais je t'en prie, tu peux enchaîner hein, si tu le veux. Bon, après, c'est vrai que je lisais un article d'ailleurs. Mediapart a fait un énorme dossier hein, sur ce qui est en train de se passer à Mayotte. Et j'ai le sentiment, pour un peu avoir regardé ce qui sortait dans les médias, que finalement, d'autres médias s'y intéressent un peu moins. Et que le travail est vraiment très, très bien fait par Mediapart. Et je lisais notamment un article d'Edoui Plenel qui parlait d'un véritable laboratoire, en fait. Hein, que le territoire de Mayotte est une espèce de laboratoire pour Darmanin notamment sur ce qu'il pourrait éventuellement essayer de tester en matière d'immigration, etc. Est-ce que c'est pas quand même super inquiétant de voir qu'on a un ministre, évidemment, soutenu vraisemblablement par un président de la République et une première ministre, en roue libre totale sur un territoire qui, effectivement, n'est pas proche de Paris, ça c'est 7-8 000 km de Paris, comment on peut réagir face à ça, nous, citoyennes, citoyens, au quotidien, si ce n'est effectivement s'insurger? J'ai pas vu passer grand chose, si ce n'est bien sûr des personnes qui dénoncent ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, etc. Mais je crois pas qu'il y ait eu de rassemblement, de choses comme ça. Je sais pas si. Ok, Asia, tu.
Il y a un rassemblement en cours là à Place de la République et dans pas mal de villes. Mais comme dit, c'est passé un peu à la trappe comme info. Donc ça circule beaucoup dans les milieux militants. Mais il n'y a pas eu d'appel massif par les organisations syndicales ou autres, ce qui est un vrai sujet en soi. Mais il y a quand même, très tardivement, mais il y a quand même des rassemblements.
Oui, non, effectivement, c'est... toi, du coup, qui es dans les milieux militants, comment vous organisez, justement? Enfin, tu parlais de ce rassemblement, mais là, on est quand même clairement... C'est vraiment une opération de... d'une violence qui est excessive, sans compter que Mayotte est un territoire qui fait l'objet hein, régulièrement de violences de la part de l'État, et un territoire qui est totalement délaissé dans une situation sociale assez dramatique. Je veux dire, quels sont nos moyens d'action concrets pour essayer de faire en sorte que cette opération cesse, en fait, parce que j'ai l'impression que, hormis la justice qui a quand même réagi en rendant une décision en disant que les opérations, notamment de destruction des maisons, etc., étaient illégales, j'ai pas l'impression qu'en fait ça arrête le gouvernement pour autant, et qu'il continue, en fait, de déployer cette violence sur ce territoire.
En dehors des manifestations et de mettre la pression sur le gouvernement, comme les manifestations non déclarées ou autres, et qu'en fait ça s'empare, toute cette contestation contre la réforme des retraites s'empare également de cette opération-là, je ne vois concrètement pas ce qu'on pourrait faire, puisqu'on a quand même un gouvernement qui reste massivement sourd à toute forme de contestation. Hormis, nous, citoyens, se mobiliser dans la rue et mettre une pression encore plus importante que ce qui est déjà le cas, et les opérations, les actions en justice, on est un peu laissé désabuser face à cette opération-là qui est extrêmement violente. Et quand on est aussi loin que Mayotte, quand on est à Paris, par exemple, c'était extrêmement compliqué de pouvoir agir très concrètement.
Anne-Claire, toi, j'imagine que tu as suivi aussi cette.
Alors, figure-toi que j'étais dans le même cas que Angela, c'est-à-dire que j'étais très contente d'être invitée à Popol, et quand tu as donné le sujet de Mayotte, je me suis dit, oh là, vaste sujet, ce sujet il existe depuis le 19e siècle, comment avoir un avis pertinent sur la question, si ce n'est effectivement, comme tout le monde, je constate de manière impuissante en fait à ce qui se passe actuellement et à la dimension de l'implication de Darmanin sur le sujet. Donc je me suis dit, comment prendre du champ en fait pour regarder, moi j'ai pas de moyens d'action, mais comment essayer de prendre du champ pour essayer d'analyser ce qui se passe. Alors moi je vois plusieurs dimensions. D'abord il y a la dimension personnelle effectivement de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a la petite histoire de Gérald Darmanin et la grande histoire d'une certaine façon de Mayotte qui se joue aussi en parallèle. Il affiche un peu dans les médias effectivement son opération à force de chiffres, 1800 forces de l'ordre sur place, etc., etc., sachant qu'il y a déjà 25 000 reconduites à la frontière tous les ans en fait, qui s'effectuent au fur et à mesure. Donc en fait, c'est aussi un jeu pour essayer de montrer que il reprend le pouvoir là-dessus. D'ailleurs, je crois que reprise en main, c'est la traduction en fait de l'opération en fait, du terme de l'opération en question. Donc on voit très bien qu'il y a un jeu derrière, qui est aussi un jeu médiatique. On sait très bien que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère du sang et des larmes, mais qu'il n'intervient jamais en amont, Et c'est en amont qu'il faut régler ce problème. Ce problème, il existe depuis des années et des années, et ce n'est pas en expulsant des gens qui sont souvent plus des gens handicapés parce qu'ils ne peuvent pas partir, ou des personnes justement enceintes, ou des personnes âgées parce que les autres ne vont pas rester quand les bulldozers arrivent, évidemment, qu'on va régler la situation. Sans compter que parfois, c'est juste déscolariser des enfants et faire que des enfants qui sont nés sur le sol français, finalement, se retrouvent tout seuls parce qu'on expulse leurs parents aux Comores. Enfin, c'est complètement aberrant et ubuesque, un peu comme ça. Tu parlais de laboratoire, je suis assez d'accord avec toi. On voit assez bien, d'ailleurs, c'est un peu le spectre de Zemmour aussi qui ressort derrière, c'est-à-dire qu'on est en train de dire que l'Afrique est aux portes de l'Europe. Vous savez, toujours cette histoire de « attention, ils arrivent, il faut avoir peur », etc. On voit très bien qu'on oublie une dimension qui est une dimension aussi militaire, c'est-à-dire que ça intéresse tout le monde d'avoir une base stratégique dans l'océan Indien, que ça intéresse tout le monde d'être proche de ressources pétrolières et gazières à proximité aussi. Donc il faut aussi laisser un peu tomber cette histoire de dimension symbolique par rapport à ça. Il y a une dimension aussi historique très forte et aussi liée aussi au contexte administratif, c'est-à-dire qu'on en a fait un département en 2011, qu'on voit très bien qu'historiquement, en fait, c'est surtout l'histoire d'une décolonisation qui est ratée, qui est totalement ratée, et qui, voilà, il y a eu des référendaires, effectivement, en 74, 76, pour rester français. Sur place, la situation est dramatique parce qu'il y a une extrême pauvreté, et que, en fait, plaquer une logique administrative sur un territoire qui est aussi loin de nous, qui n'a pas les mêmes problématiques, c'est assez compliqué. On dit qu'ils sont, effectivement, la population est extrêmement pauvre, mais elle est 8 fois plus riche qu'un Comorien moyen, qui gagne son revenu moyen. Donc en fait, il y a une distorsion aussi par rapport de réalité par rapport à ça. Et puis, pour revenir au sujet qui vous intéresse, je pense, toutes les trois, il y a aussi une dimension qui, s'il y a un laboratoire, c'est un laboratoire des enjeux qui se jouent actuellement. C'est un laboratoire climatique, parce qu'on sait que la ressource en eau se fait de plus en plus faible sur le territoire. C'est un laboratoire parce que quelle est la place et la condition des femmes? Elles ont 4 enfants en moyenne. L'accès à la contraception, effectivement, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elles soient éduquées, qu'elles aillent à l'école dans des conditions comme ça. Il y a 30 naissances par jour sur le territoire, donc c'est énormissime en fait par rapport à ça aussi. Et c'est une île qui s'enfonce parce qu'il y a un volcan qui ressurgit et donc elle s'enfonce dans l'eau. Et donc il y a des... Voilà, s'il y a un laboratoire, c'est plutôt celui-ci que je vois par rapport à ça. Donc, vous apportez une réponse. Alors là, vraiment, j'en suis bien incapable. En tout cas, je vois que c'est toutes ces dimensions-là qui s'entremêlent et qui font que finalement, c'est une sorte de... qu'on est assez impuissant, effectivement, de loin, et qu'on se demande comment on a pu en arriver là et comment c'est possible d'aider ces populations-là avec tout ce qui s'entrechoque sur des dimensions qui sont à la fois personnelles, historiques, géographiques, administratives.
Ouais. Et c'est aussi une question de... pour aller dans ton sens, c'est un laboratoire aussi de zones de non-droit, en fait.
Ouais.
Parce que j'échangeais là avec une amie en préparant l'émission. Cette amie m'expliquait que souvent, lorsque des femmes accouchaient à Mayotte, on leur suggérait très vivement de se faire ligaturer les trompes ensuite. Donc donc on est dans une logique de stérilisation forcée, ou presque, aussi sur place. Et je pense que ça, c'est assez important de le souligner. Angela, toi qui a pris la parole tout à l'heure et qui n'a peut-être pas pu terminer ce que tu voulais dire, excuse-moi, on a enchaîné ensuite.
Pas de problème.
Tu partages ce qu'a dit Anne-Claire, notamment sur... moi, je trouvais ça intéressant ce que tu disais, Anne-Claire, sur le fait que Darmanin est un peu en train de faire joujou, en quelque sorte, et peut-être d'essayer d'imposer un peu sa présence et ses idées assez abjectes au sein du gouvernement, à travers cette opération notamment.
Effectivement, je trouve que c'est un peu le revers un peu cynique de cette communication politique qui se veut ultra violente. On parle d'opération, donc d'opération militaire. On a tout un vocabulaire quand c'est abordé dans les médias qui est assez, assez incroyable. Et oui, alors, sur c'est la c'est pas la première fois que j'entends parler d'une volonté de Gérald Darmanin d'assurer une posture plus nationale avec Matignon qui pourrait être visé, voire même l'Élysée en 2027. Mais en m'intéressant du coup à Mayotte, là vraiment, en croisant les sources, bah, ça a été évoqué à plusieurs reprises, peut-être trois sur les différents médias sur lesquels je me suis penchée, où à chaque fois planait un petit peu cette, en tout cas, le fait que cette personnification de l'opération derrière Gérald Darmanin, elle servait aussi cette, cet objet-là, cet enjeu-là, ce qui quand même est assez effrayant hein, quand on pense qu'en 2017 ou 2011, je pense, il déclarait que Marine Le Pen était trop molle sur certains sujets. Donc, savoir qu'il cherche à avoir d'autres responsabilités que celle qu'il a déjà aujourd'hui, ça peut être assez glaçant.
Oui, non, c'est pas une perspective particulièrement réjouissante, hein, ça c'est certain. Oui, Anne-Claire, pardon.
Et ça se profile en plus dans la loi immigration, évidemment, à venir. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de perspective pour lui qui est cette loi-là et qui lui permet justement de surfer sur des contextes qui sont complètement différents et de jouer un peu là-dessus.
Oui, sachant que cette loi, je le précise, ce projet de loi a été repoussé à l'automne puisque Elisabeth Borne s'est bien rendue compte qu'elle n'aurait pas suffisamment de majorité à l'Assemblée, enfin une majorité suffisamment solide à l'Assemblée nationale pour que le projet passe. Donc voilà, tant mieux hein, dans un sens, hein, pourvu qu'il soit toujours, pourvu qu'il soit toujours repoussé. Assia, toi qui suis les questions notamment antiracistes, est-ce qu'on peut parler d'une gestion raciste dans cette opération de la part du gouvernement? Est-ce qu'on peut vraiment employer le terme?
Ah oui, moi je l'emploie.
Ouais, on est d'accord.
Enfin, concrètement, c'est une approche raciste et xénophobe de l'immigration. Bah, c'est, de toute façon, c'est Darmanin, c'est son idéologie totalement qui est illustrée là, de répression, de gestion raciste, constamment de l'immigration. Et là, le fait est qu'on pointe du doigt les Comoriens et Comoriennes exilés comme étant responsable de tous les maux de Mayotte, démontre concrètement qu'on est dans une approche raciste et xénophobe de cette opération répressive à plein gaz.
Oui, c'est nos... Bon, c'est clairement une opération répressive, sachant que bon, là on tourne autour du pot, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du problème qui est souligné ou en tout cas qui est mis en avant de la part du gouvernement pour justifier cette intervention, qui est un contexte d'extrême violence à Mayotte, mais qui est bien entendu le résultat et le fruit, comme on le sait, hein, et ça c'est une surprise pour personne, d'une situation de pauvreté extrême et d'un territoire qui est totalement laissé à l'abandon. Rien n'a été annoncé sur ce terrain-là. C'est-à-dire que, hormis sur le plan sécuritaire et sur le terrain sécuritaire, je n'ai pas entendu le gouvernement faire des annonces complémentaires en disant « on va renforcer l'accès aux aides sociales, on va renforcer la formation, on va renforcer l'accès au logement, etc. etc. » Je me trompe, Assia, ou il y a quelque chose qui m'a échappé?
Ah non, absolument pas. Le volet social est totalement oublié. Comme souvent, hein, de manière générale, quand on parle de politique publique ou de politique ou d'opération dans les territoires ultramarins, c'est très rare hein, qu'on muscle l'opération, enfin le pan social, et plutôt l'approche répressive qui est mise en avant constamment. Comme tu disais, c'est un laboratoire, mais c'est pas pour rien que c'est un laboratoire tout en étant un territoire ultramarin. C'est parce qu'il y a une volonté constamment, des quartiers soit sur les quartiers populaires, soit sur les territoires ultramarins, d'essayer des nouvelles techniques des maintiens de l'ordre. En 2005, c'était le cas pour les LBD, qui ont d'abord été utilisés dans les quartiers populaires, puis ensuite ont été répandus sur tout le territoire. Et là, c'est exactement la même chose qui se passe. On est en train de tester une nouvelle technique des maintiens de l'ordre, extrêmement violente. Jamais on n'aurait utilisé des armes étirées à balles réelles sur le territoire hexagonal. Ça aurait fait un scandale, alors que là, c'est totalement assumé. Et que du coup, c'est une vraie volonté à chaque fois d'utiliser les territoires ultramarins comme étant un laboratoire, comme étant voilà, des territoires stratégiques pour l'impérialisme. Mais pour autant, on oublie totalement, on abandonne totalement les services publics, l'éducation et tout l'aspect social de nos politiques sur place.
Ça, c'est clair. Anne-Claire, je crois que tu voulais réagir.
Oui, parce que je crois qu'il y avait une étude qui était menée, que même si, à la limite, si tout le monde était reconduit à la frontière, etc., il y aurait quand même 250 000 emplois à pourvoir. C'est-à-dire qu'en fait, on ne règle pas le problème. On ne règle pas le problème social, on ne règle pas le problème économique. Encore une fois, c'est un peu le... C'est un peu, voilà, on cache la misère. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, quand bien même on reconduirait tout le monde, il y aurait ces problèmes persisteraient. Et encore une fois, c'est séparer des familles, c'est déscolariser encore plus d'enfants, c'est toucher finalement des gens qui n'ont pas pu partir. Donc, je trouve que c'est assez... assez aberrant. Il y a un fonds qui a été donné et en 2019, donc des millions d'euros, et on se dit, bah alors comment, voilà, comment, quelle a été l'utilisation de tout ça? On parlait de la dimension politique économique, mais aussi à la dimension diplomatique. Pourquoi est-ce qu'on la met pas en œuvre aussi avec les Comoriens? Pourquoi est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là aussi? Donc il y a plein de choses à régler évidemment avant, sachant que on comprend aussi que la population soit excédée, que elle soit au bord d'une guerre civile et que la situation est extrêmement tendue et d'une violence absolue. Mais il faut prendre en compte tout ça. Il y a très peu de routes à Mayotte. Ça veut dire que bah, on ne peut pas se déplacer, que la population est concentrée sur les côtes, que forcément la densité fait que les problèmes ressurgissent aussi par rapport à ça. Et je trouve qu'on occulte, voilà, toutes ces dimensions-là qui devraient être des dimensions qui devraient être prises en compte pour apporter une solution.
Oui, ça c'est sûr. Et bon, bah, comme on le disait, il y a un abandon total et aucune volonté de répondre aux difficultés sur place, si ce n'est par la voie sécuritaire. Et puis, il y a aussi, et je crois que c'est Assia qui disait ça en introduction, cet amalgame qui est constamment fait entre étrangers et problème en quelque sorte, hein, en considérant que vraiment les personnes qui sont sur le territoire de Mayotte et qui ne sont pas de nationalité française sont forcément les personnes qui sont celles qui foutent le bordel et qui sont responsables des violences et certainement de tous les maux que peut connaître l'île. C'est assez facile, hein, de trouver évidemment des boucs émissaires de ce type, et c'est quand même assez récurrent dans la politique de nos gouvernements, dans nos belles démocratie néolibérale. Bref, Angela, voudrais-tu rajouter quelque chose et peut-être conclure sur ce thème avant qu'on parle d'un autre sujet?
J'aimerais bien rajouter quelque chose, oui, je te remercie. Conclure, ma conclusion, elle sera peut-être à compléter. C'est vrai que tout à l'heure, Anne-Claire parlait de déscolarisation de certains enfants. Moi, ce qui m'a le plus glacée quand je me suis intéressée au sujet, c'est que, en fait, dans les médias locaux, et notamment dans les propos du premier vice-président du territoire que tu évoquais tout à l'heure, Selimé Mdéré, on parle de la délinquance de très très jeunes délinquants, alors qu'en fait il s'agit vraiment de délinquance de survie. Ce sont des mineurs, et apparemment des milliers de mineurs, qui sont isolés parce que leurs parents sont expulsés, 25 000 expulsions depuis 2018 par an. Des mineurs à qui on n'offre aucune perspective d'avenir, si ce n'est cette délinquance de la survie jour après jour. Et moi, là où ça m'a vraiment interpellée, ça m'a vraiment glacé le sang, c'est comment on peut, sur un territoire qu'on veut français, pour lequel on s'est bataillé pour que ce soit français, comment on peut arriver à un tel traitement déshumanisant de la population à tous les niveaux, en termes d'illégalité, en termes de violence. Et c'est vraiment la chose qui m'a le plus consternée. Sur cette question-là, parce qu'effectivement, la question de Mayotte, c'est d'abord une question de pauvreté, de manque de services publics, mais d'abord de pauvreté, et pas une question de délinquance. C'est pour ça que tout à l'heure, je me permettais de dire que voilà, c'était l'amalgame qui était agité entre la délinquance et l'immigration, et c'est fatigant d'avoir toujours ce traitement-là, parce que ça n'apporte aucune solution. Là où on a, en tant que... Alors, c'est la partie conclusion, mais là où on a, je pense... un rôle à jouer en tant que citoyenne, c'est de continuer justement à essayer de défier ce fameux biais cognitif de mort kilométrique. Plus les morts sont loin et moins on se sent concerné. C'est un biais cognitif qui nous touche toutes et tous, ça a continué à diffuser des informations en nous basant sur des journalistes indépendants qui vivent localement sur place. Il y en a pas mal qui interviennent dans les médias indépendants et je pense que c'est important de diffuser ces messages-là pour qu'on se sente toutes et tous concernés par un sujet qui est vraiment un sujet essentiel.
Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Angela. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris le temps et de partager vos réflexions avec nous sur ce sujet. Angela, je me rends compte que lorsque tu as parlé d'anarcha-féminisme, je me suis tellement emballée que je t'ai même pas laissé terminer ta présentation. Donc, si tu veux ajouter quelque chose, c'est le bon moment. Désolée. N'hésite pas.
OK. Alors, j'ai juste zappé ce que je faisais dans la vie. Donc, moi, je suis docteur en psychologie. J'exerce en libéral au sein d'une maison de soins que j'ai créée sur la métropole lilloise qui s'appelle Sano et Lontano. L'objectif, c'était de créer une équipe pour avoir un regard pluridisciplinaire, interdisciplinaire, j'aime bien ce mot-là parce que ça montre qu'on travaille vraiment de façon soudée pour offrir vraiment un accompagnement global aux patients et aux patientes. Et la particularité de la maison de soins Sano et Lontano, c'est qu'au-delà de l'exercice d'un cabinet libéral classique, on fait des actions de prévention santé à destination d'un public adulte et âgé. Et jusqu'à très récemment, on faisait des conférences libres pour tout public de prévention santé. Ces conférences, on y a mis fin, toute fin 2022, pour essayer d'en faire un podcast pour s'adresser au plus grand nombre. Voilà.
Bah, génial. Et encore, désolée, ça valait le coup quand même que tu reprennes la parole pour compléter ta présentation. Désolée encore une fois. C'est vrai que quand on parle de ce sujet, moi, je m'emballe un peu. Et bref, comme je venais juste de lire le manifeste de l'anarcha-féminisme, je me suis dit, bah tiens.
J'imagine bien.
Ça me rappelle des bons souvenirs. Bien, merci beaucoup et encore désolée. Parlons désormais de la crise politique qui s'enlise vraisemblablement. De l'interdiction des casserolades aux déclarations absurdes en passant par les appels au dialogue et autres tentatives de dépassement inefficaces, le gouvernement semble avoir de plus en plus de mal à faire face à une contestation sociale qui ne faiblit pas. En outre, côté politique, le gouvernement a bien du mal à rassembler autour de ses futurs projets. Une majorité de plus en plus relative à l'Assemblée nationale a poussé Elisabeth Borne à annoncer le report de l'examen du texte sur l'immigration et sa feuille de route, présentée récemment, n'a pas l'air de convaincre grand monde en dehors de celles et ceux qui l'étaient finalement déjà assez. Nous sommes vraisemblablement face à un pouvoir politique à bout de souffle qui s'enferme dans une forme d'entêtement qu'on avait jusqu'alors peu connue, convaincu de pouvoir dépasser une contestation jugée illégitime. Le président de la République qui avait annoncé que son résultat à l'élection présidentielle l'engageait, compte tenu du fait qu'il n'aurait certainement pas été élu sans celles et ceux qui avaient voté contre Marine Le Pen, semble avoir oublié cette promesse. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette situation vous semble tenable. Et quelles sont, d'après vous, les issues possibles pour le gouvernement afin de sortir de cette impasse politique? Anne-Claire, qu'en penses-tu?
Déjà, il y a quelque chose qui m'a frappée. J'ai regardé un peu les sondages récents. J'ai vu qu'il y a un sondage IFOP qui dit que 60% des Français considèrent comme justifiées les casserolades, ce qu'on appelle casserolades. On les appelle casseroleurs. Il y a même des nouveaux termes maintenant aujourd'hui pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est super intéressant pour moi parce que ça veut dire qu'au-delà de la réforme des retraites, etc., le mouvement voilà, continue à être soutenu. Donc pour moi, il y a la cristallisation, quoi qu'il arrive, elle est faite. Et donc je ne vois pas comment on peut s'en sortir politiquement si ce n'est retourner effectivement à la table des négociations pour réévoquer le sujet. Ce que je trouve très intéressant, tu parlais d'entêtement du gouvernement.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais j'ai envie de dire, mais les gilets jaunes, déjà en 2018, on était passé à côté. Les gilets jaunes, c'était quand même mettre un gilet jaune pour être vu. Les casserolades, c'est faire du bruit pour être entendu. J'ai beaucoup entendu dire que c'était pour rendre inaudibles les messages. Non, c'est aussi fait pour être entendu. Et j'ai l'impression que c'est la même connerie, pour parler de manière un peu triviale, qui est en train d'être faite sur l'analyse de 2018 versus l'analyse d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la limite, on s'intéresse toujours à qui sont-ils, etc. Est-ce qu'ils sont peu nombreux ou pas, etc. On voit qu'ils sont soutenus par l'opinion publique. On voit que peu importe s'ils sont sans ou pas, contrairement à ce que dit Gabriel Attal, ce sont des gens qui posent des journées et qui travaillent et qui vont se rendre pour manifester. Donc, il faut aussi qu'on arrête de dire ça. Ce sont des gens qui n'ont pas de voix dans les médias. Ce sont des gens qui essaient de trouver par là même, en fait, un dispositif mobile pour être entendus. Donc, je trouve ça très intéressant, moi, ces casseroles. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est... Alors là, je vais peut-être me lancer dans un truc, mais c'est Georges Audricourt, Pierre-Georges Audricourt qui disait que, en fait, si on prend un objet, si on tire le fil de l'objet, c'est toute la société qui vient avec. Et ce mouvement des casseroles-là, c'est une casserole, certes, c'est fait pour faire du bruit, certes. Derrière, il y a aussi l'idée donc d'être entendu. C'est quelque chose qui avait déjà eu lieu précédemment. On se souvient qu'au Chili, les gens utilisaient les casseroles pour se faire entendre. En Islande, on a fait tomber quand même un premier ministre suite à ce mouvement-là aussi avec ça. Les casseroles, c'est aussi un peu le symbole de l'inflation aussi qui est actuelle et qui empêche les gens peut-être aussi de manger tout concrètement, en fait, par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui est fait par rapport à ce sujet-là? Et je trouve que, voilà, il y a une forme, oui, d'entêtement, de passer ça de manière un peu bravache. Je pense que même, on a aussi beaucoup glosé sur la société de la flemme, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, sur l'idée que les gens sont... un peu atones, sont résignés, il y a une forme de renoncement à la fois au vote, à la fois à la vie, de participer à la vie sociale, etc. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est tout l'inverse, en fait. Et on voit qu'on passe d'un « je » qui est un renoncement qui est individuel à un « nous » qui est une forme de mobilisation collective. Et je crois que ça, on ne se rend pas bien compte, en fait, des effets actuels qui sont assez intéressants, hein, d'un point de vue aussi démocratique, parce que ça bouscule aussi ce qui se passe et que finalement, si on veut regarder un peu le côté positif, bah, je trouve ça assez intéressant, en fait, de voir des mobilisations qui surgissent, de voir qu'on réfléchit. Moi, j'ai posé la question sur Colpol, de quoi voulez-vous qu'on parle ? Il y a plein de gens qui ont parlé on veut qu'on parle d'innovation politique. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on participe différemment, etc. Je suis sûre que si on avait posé la question... Colpol n'existait pas, mais quelques années auparavant, ce serait peut-être pas forcément le cas. Et donc, je trouve ça super intéressant, cette manière de faire un nous commun. Il y a aussi autre chose qui m'intéresse, c'est que il y a 6 ans de ça, en 2017, Emmanuel Macron allait presque être élu. On disait que c'était la fin du clivage gauche-droite, je ne sais pas si vous vous souvenez, etc., que finalement, c'était en même temps, etc. Bah non! On voit bien que la gauche, elle est là aussi, elle est là pour résister. Le clivage est plus que jamais nécessaire et qu'il faut le porter un peu partout. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, je suis assez d'accord. Et moi, c'est vrai, je me faisais la réflexion. Bon, j'étais aux États-Unis là pendant 2 semaines, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu Popol, hein. D'ailleurs, je précise, désolée, mais à coup de pas, machin. Mais nous revoilà, toujours motivés, bien sûr. Et c'est drôle parce que, du coup, les gens réagissaient à ces casseroles, à ce qui se passe en France, etc. Ils regardent ça avec un œil, mais vraiment... les ricains et les ricaines, ils sont vraiment en mode, mais c'est ouf, quoi, ce que vous faites, les Français, les Françaises, mais on vous adore, en fait. Enfin, après, moi, les personnes que j'ai fréquentées sont plutôt dans un milieu assez militant, hein, et plutôt de gauche, de toute évidence. Ça existe aussi aux États-Unis. Et vraiment, j'étais... et ouais, moi, j'étais trop contente. Je suis là, mais ouais, on est fucking badass, quoi. Genre, on a un gouvernement, il veut pas retirer sa réforme. On se donne à 20h devant la mairie avec nos casseroles, mais c'est génial.
Il y a une grosse hype sur TikTok. Il y a une grosse hype sur TikTok. Je sais pas si vous avez vu aussi sur, justement, les étrangers qui regardent ce qui se passe et qui sont comme des fous. Ou alors les Français ils étaient fascinés il y a quelques jours sur la construction, vous savez, de murs sur l'autoroute. En fait, ah oui, rapidement, ça, c'est on arrive avec aussi. Une brique, etc. Et tout,
non, non,
et
mais c'est vrai, quand tu parles d'innovation démocratique, etc., on voit que finalement, de manière assez spontanée, on arrive à être créatif et créative. Et quand tu dis le jeu a laissé la place au nous, je pense que ça, on en avait fondamentalement besoin. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que finalement, ce mouvement de la réforme des retraites prendra plus d'ampleur que le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'à l'époque des Gilets jaunes, le gouvernement a essayé d'opposer les Françaises et les Français entre elles et entre eux. Ça avait plus ou moins bien fonctionné d'ailleurs, dans une certaine mesure, avec bien évidemment ceux qui et celles qui relèvent plutôt d'une classe bourgeoise qui considéraient que les Gilets jaunes, c'était finalement que des beaufs qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient ou ce qu'elles voulaient. Et là, on voit qu'il y a quand même une convergence qui est assez inattendue, puisqu'en fait, je pense que le pouvoir ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une convergence aussi importante, avec un projet de réforme qui est excessivement critiqué, totalement rejeté, enfin quasi totalement rejeté par l'intégralité de la population, et cette capacité à faire société en dehors des institutions. Ouais. Et c'est fabuleux.
Et pas que la population. Esther Duflo, récemment l'économiste prix Nobel, s'il te plaît, conseillère économique d'Obama, qui sait un peu de quoi elle parle, elle a désingué cette réforme.
Bien sûr.
Voilà, tous les intellectuels ont pris la parole sur le sujet, etc. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est...
Non, c'est très positif ce qui est en train de se passer. Moi, je trouve ça assez enthousiasmant. Assia, toi, j'imagine bien sûr que tu suis ça avec beaucoup, beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Est-ce que, pour reposer la question de base, est-ce que tu penses que le gouvernement est face à un mur, là ? Quelle est la solution pour avancer si on se place du côté de nos dirigeants et dirigeantes ?
Moi, j'ai du mal à voir un scénario d'apaisement sans retrait de la réforme. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien faire un remaniement, il pourrait très bien faire une dissolution, mais dans tous les cas, la colère ne sera pas apaisée s'il n'y a pas de retrait de la réforme. Je pense que c'est le préalable à toute sortie à peu près convenable pour le gouvernement. Le problème étant, c'est que Emmanuel Macron n'a pas l'air très favorable pour ce scénario-là, dans la mesure du temps où il reste quand même extrêmement sourd à la rue. Et pour autant, la rue, c'est organisé de manière très spontanée avec les casserolades, avec les manifestations non déclarées qui ont lieu très régulièrement dans toutes les rues de France. Grosso modo, plus aucune institution, que ce soit un parti politique ou les syndicats, n'ont la main mise sur le mouvement de contestation. Donc, en fait, on va vers plutôt 100 jours de colère encore qui s'en va de manière assez grandissante s'il n'y a pas de retrait d'ici là.
Ouais, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que on est face à une impasse et qu'elle sera difficilement dépassable sans retrait, effectivement, de ce projet de loi. Mais est-ce que tu penses que même si, admettons, Macron lâche enfin le morceau et retire ce projet de loi, est-ce que tu penses qu'après, les conditions seront quand même favorables pour qu'il puisse continuer à gouverner?
Je pense qu'en parallèle, il faudrait à minima un remaniement. Je ne souhaite pas personnellement de dissolution parce que j'ai extrêmement peur de l'aboutissement, enfin concrètement que l'extrême droite ait encore plus de sièges puisque pour l'instant, c'est celle qui tire son épingle du jeu, malgré que la NUPES ait fait un travail dans l'hémicycle assez remarquable, malgré toute la décrédibilisation qu'a effectué le gouvernement. Mais oui, enfin, je pense qu'un remaniement pourrait à peu près permettre à la situation de se calmer en parallèle de ce retrait. Mais on va quand même sur une colère qui va rester. On ne va pas tourner la page comme ça, de bout en bout. Je pense que concrètement, les contestations vont continuer sur d'autres sujets. S'il y a la loi immigration, ça sera sur ça. Sur le SNU, ça va continuer. Il y a plein de sujets en fait, qui sont tellement problématiques mis en œuvre par ce gouvernement que de manière générale, la colère va perdurer, mais on pourrait à peu près calmer cette crise politique qui est quand même une crise aussi institutionnelle et parlementaire et pas qu'une contestation sociale qui se passe dans la rue.
Ouais, c'est clair. Angela, tu penses aussi que ce serait les ingrédients d'une recette pour que les choses s'apaisent, c'est-à-dire ce que disait Assia, retrait de la réforme plus remaniement?
Alors effectivement, moi je rejoins vraiment Assia quand elle parle de dissolution de l'Assemblée nationale qui serait un vrai boulevard pour l'extrême droite. De temps en temps sur les réseaux sociaux, on voit aussi des éléments sur une éventuelle destitution d'Emmanuel Macron et je pense que malheureusement ça amènerait au même boulevard. Je ne sais pas si... Quand bien même on mettrait la réforme au point mort, effectivement, si ça pourrait stopper ce mouvement qui est d'une grande ampleur, qui fait héritage effectivement à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, mais qui a vraiment rassemblé le plus grand nombre de personnes, qui a vraiment fait corps au sein de la population générale. Je pense que c'est toute l'institution démocratique française qu'il faut peut-être réinterroger sur la question. On parle de constituante. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait envie de marquer son passage comme étant celui qui a lancé la constituante en France pour une éventuelle 6e République. Mais en tout cas, je pense que c'est une idée qui paraissait peut-être saugrenue il y a quelques années et qui a été vraiment appropriée par le grand public aujourd'hui. Le grand public se pose la question de comment fonctionne la démocratie française et qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour que ce soit plus représentatif et plus rassembleur.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est marrant parce que assez récemment, il y a peut-être 3 semaines, un mois, c'est le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui avait évoqué, et je me demande si Attal n'avait pas aussi évoqué ça, et vous me direz si ça vous rappelle quelque chose ou pas, la possibilité de mettre en place une convention citoyenne sur la réforme de la Constitution. Ça vous rappelle quelque chose? Anne-Claire, non, ça ne te dit rien Assia, tu dis que ouais, ça te dit quelque chose. Il me semble que ça avait été évoqué à un moment donné, hein, assez brièvement, par quelques ministres, non?
Il me semble de mémoire que c'était Gabriel Attal, puisque je m'étais dit encore une convention citoyenne qui va concrètement servir à rien, comme ça a été le cas pour le climat, par exemple. Donc oui, ça a été évoqué. Après, on les connaît, hein, c'est des très bons communicants, mais concrètement, qu'est-ce qui va en ressortir? Pas forcément grand-chose de positif, quoi.
Non, ouais, ça c'est sûr. Mais même Macron l'avait dit lorsqu'il a parlé le 8 mars d'inscrire l'IVG dans la Constitution, il avait dit que ça se ferait dans le cadre d'une réforme plus globale des institutions et une réforme constitutionnelle plus globale. Pardon, Anne-Claire.
C'était pour faire une blague, c'est la Convention citoyenne is the new numéro vert, quoi. C'est un peu
sympa. Oui, c'est ça.
Qui était lui-même le new Grenelle de je ne sais pas trop quoi, donc à chaque fois, voilà, quoi. Et
ouais,
d'ailleurs,
exactement.
C'est typique de la communication actuelle d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est une présence du burn-out. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de débat démocratique. Il n'a pas fait campagne, je vous rappelle, dans les médias, etc., avant l'élection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, les sujets sont débattus. Justement, on se fait un avis, c'est un moment de respiration démocratique. On est rentré d'emblée dans cette présidence qui a été déjà asphyxiée, en fait. Donc, en fait, c'est juste le burn-out consécutif de tout ce qui se passe là, au-delà de l'injustice énorme de cette loi, etc., etc. Mais il y a ça, et puis il y a la communication un peu millefeuille autour de ça, c'est-à-dire que il nous sort tout le temps des chantiers. Alors les 9 chantiers du PNR de je sais pas trop quoi, les 12 chantiers de je sais pas trop quoi, là on va refaire encore des chantiers, etc. C'est ce que tu disais, Asia, sur la nouvelle convention, etc. Mais concrètement, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi? On a toujours les 100 jours, et puis après, voilà, des lignes de fuite comme ça, temporelles aussi, sur ce qui va se passer. Mais c'est, la communication ne doit pas être que performative. Ça n'existe pas, le pouvoir magique de jeudi, et ça va être fait, quoi. Enfin, à un moment, faut s'intéresser, faut s'asseoir autour d'une table, faut débattre, faut juste aussi s'écouter. C'est un gouvernement qui n'écoute pas, et donc c'est ce qui se passe avec la casserolade, c'est qu'on veut être entendu et personne n'écoute en face, et ça c'est assez dramatique comme conception de ce qui se passe de la démocratie, du dialogue, de l'écoute. Enfin, c'est des règles même platoniciennes, en fait, de juste d'échange, en fait, qui remontent pas il y a 3 jours, quoi.
Non, non, c'est clair. Et pourtant, on n'arrête pas de nous dire, à qui veut l'entendre d'ailleurs, hein, que la porte d'Elisabeth Borne est encore ouverte, que le dialogue est possible, que ceci, que cela. C'est quand même fou à quel point on se fout de notre gueule. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi, parce que vraiment, moi, je suis stupéfaite hein, de voir à quel point on se fout de notre gueule. C'est quand même fabuleux. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans ce type de foutage de gueule. Je voulais juste faire un petit point sur le rôle des syndicats dans tout ça, parce que ce qu'on constate quand même par rapport à d'autres mobilisations sociales, c'est que là, les syndicats sont revenus en force. Les syndicats qui avaient été quand même écartés hein, du dialogue politique de la part, et du dialogue social, alors que c'est leur rôle principal, de la part d'Emmanuel Macron, qui considérait que finalement les corps intermédiaires n'étaient pas très utiles, ce qu'il considère encore, hein, à mon avis, profondément au fond de lui. Assia, est-ce que tu penses que ce front commun qui a été construit, qui a été bâti avec les syndicats, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir capitaliser à l'avenir sur soit bien sûr des réformes sur le plan social, soit des organes de mobilisation qui pourraient potentiellement avoir une place plus importante dans une 6e République, admettons?
Je pense que les syndicats vont pouvoir capitaliser sur cette séquence. Globalement, ils ont tous vu qu'il y avait beaucoup plus d'adhésions. Il me semble que la CGT a eu plus de 3000 adhésions.
Tout à fait, il y a eu énormément d'adhésions depuis le mois de janvier, ouais.
Ah, et que du coup, de base, les salariés du privé sont assez fâchés avec les organisations syndicales depuis quelques années. On voit que les élections professionnelles sont assez boudées. Mais que là, concrètement, probablement du fait qu'il y ait cette unité des organisations syndicales, a permis aux salariés et de manière générale aux travailleurs et travailleuses d'avoir un peu plus de confiance sur les organisations syndicales, notamment la position de la CFDT a pu jouer également dans cette séquence, et que probablement que s'il n'y a pas de trahison, si j'ose dire, d'une organisation syndicale ou d'une autre, les syndicats pourront sortir par le haut de cette séquence-là et capitaliser pour l'avenir et retrouver toute leur place, notamment dans le dialogue social à l'avenir ou dans une 6e République. C'est fondamental. Hein. Enfin, c'est une institution qui est extrêmement nécessaire dans le dialogue social et normalement en matière de sécurité sociale, dans le paritarisme et compagnie. Et que il est fort. C'est très intéressant s'ils arrivent à sortir leur épingle du jeu. Et de manière générale, j'invite tous les travailleurs et travailleuses à se syndiquer. C'est essentiel et c'est que de cette manière-là qu'ils pourront capitaliser sur le nerf de la guerre restant l'adhésion et l'effet et l'argent. Donc le rapport de force pourrait être intéressant et totalement changé.
Ouais, très juste. Et ça me fait penser d'ailleurs. On voit qu'il y a d'autres acteurs politiques et actrices, mais acteurs en l'occurrence, parce que je pense aux partis politiques, qui pourraient potentiellement tirer leur épingle du jeu aussi et éventuellement capitaliser sur une mobilisation. Angela, qu'est-ce que t'en penses ? Anne-Claire, tout à l'heure, nous disait « la gauche est là, la gauche est présente ». Est-ce que c'est vrai, ça ?
Et c'est à moi que tu poses la question, c'est bien Alors... C'était un petit peu, si jamais tu m'avais interrogé en premier, c'est comme ça que j'aurais commencé. La question, c'est comment eux, ils s'en sortent ou comment nous, on s'en sort, en fait, de cette impasse politique générale qui dépasse de très, très loin la question de la réforme des retraites. Moi, je pense que l'impasse, elle est au long cours, malheureusement. On a encore 4 ans de mandat d'Emmanuel Macron qui nous attendent dans un état où, pour l'instant, assez peu prédictible. La gauche... elle est présente en partie avec ce processus qui a été entamé par le rassemblement de la gauche avec la NUPES, même si elle est un petit peu parfois dévoyée par certains de ses membres, comme par exemple Monsieur Fabien Roussel. Mais je pense que justement, en fait, pour sortir de l'impasse, il faut absolument qu'il y ait une véritable alternative à gauche qui se dessine, qui se renforce. Tout à l'heure, on parlait des ambitions nationales de Gérald Darmanin. Même si au premier abord ça a été assez effrayant de le penser, mais malgré tout ça fait une candidature à droite en plus. Donc c'est bien que la droite, elle ait plusieurs candidats, allez-y, rassemblez-vous, faites-en plusieurs comme ça, de la droite à l'extrême droite, si on en compte Zemmour, Marine Le Pen, certainement Édouard Philippe, Gérald Darmanin, ils sont déjà plusieurs à vouloir candidater. Bah nous, du coup, à gauche, au contraire, il faut qu'on se rassemble derrière une seule et même personne, qu'on arrête accessoirement de se tirer dans les pattes comme on a souvent fait pendant très longtemps, éventuellement, du coup, de se poser la question du PCF dans la NUPES. Je pense qu'en ce moment, c'est un petit peu la question, pour avoir vraiment une gauche unie derrière un programme commun, pluriel, d'inspiration plurielle en tout cas, mais derrière une seule et même personne en face, du coup, de cette droite qui a l'air de vouloir se diviser en termes de guerre d'ego, bah, je pense que ça peut nous être profitable. En tout cas, à terme, l'impasse, la sortie de l'impasse, moi, je la vois là.
Ouais, bah, c'est bien, t'es bien positive, c'est cool ça. Moi, j'ai un regard quand même plus critique là-dessus. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui émerge à gauche, malheureusement, de cette mobilisation. Anne-Claire, tu vas peut-être me contredire, j'espère.
Oui, en fait, je parlais moins de la gauche au sens général que du clivage gauche-droite des idées notamment, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse. Après, on le voit, Emmanuel Macron, là, il va être contesté de toute façon dans son propre camp puisqu'il ne se représente pas et les candidatures vont pas tarder à émerger. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il a perdu depuis sa réélection un quart de ses soutiens qui étaient à gauche. Donc, ce sont des gens qui vont être d'une certaine façon orphelins. Et donc, peut-être que s'il y a un positionnement effectivement assez fort à gauche par une personnalité voilà, qui arrive après à émerger, voilà, pourquoi pas voilà, recréer une forme de pôle. Je parlais moins de positionnement politique, si tu veux, que de sujets qui émergent et qui sont très sociaux, évidemment, et donc sur lesquels les gens ont forcément aussi un avis, puisque par exemple les retraites, ça touche un peu tout le monde. Mais voilà, c'était plus...
Est-ce que tu penses qu'il y a une traduction partisane de ces idées de gauche qui émergent dans la société? Est-ce qu'il peut y avoir, en tout cas, une structuration autour de ça qui puisse déboucher sur quelque chose qui pourrait ressembler à une union politique et qui pourrait... là où, finalement, le mouvement des Gilets jaunes a échoué dans une certaine mesure, à savoir vraiment arriver à se... Il y a eu des tentatives, hein, à se pérenniser à travers un mouvement politique. Est-ce que de cette grande mobilisation, on ne pourrait pas imaginer quelque chose qui peut-être dépasserait d'ailleurs les partis de la NUPES, hein?
Tu veux que je fasse de la prédiction?
J'aimerais bien qu'on fasse
la voyance.
Petite fiction,
je
ne
sais pas, je suis moins bien passée que quand j'ai là ou Asia pour répondre à la question, mais je pense qu'il y a quand même une opportunité, au moins pour que ces sujets-là soient débattus. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de surprises, si on veut rester un peu optimiste, puisque tout peut se faire aussi un peu, pas au dernier moment évidemment, mais on peut voir voilà, émerger des figures qui peuvent prendre un peu le lead par rapport à ça. La gauche reste la gauche, effectivement, c'est la problématique de l'un et du multiple, la dialectique de l'un et du multiple à chaque fois, et donc c'est qui va porter les couleurs de tout le monde, et ça reste un peu le problème, mais en tout cas on voit que les LR sont totalement... ils ne savent plus trop où ils habitent non plus, avec Emmanuel Macron évidemment qui va essayer de tendre des perches de ce côté-là. Je pense qu'on a très bien compris que depuis longtemps, hein, mais que le gouvernement d'Emmanuel Macron était axé très à droite, enfin à droite, et donc ça, pour moi ça me laisse, ça laisse en tout cas une opportunité de porter ces sujets-là et de faire front sur ces sujets-là à l'image de l'intersyndicale, par exemple. Ça durera le temps que ça dure, hein, on sait très bien, avec les idées de gauche plurielle, mais si déjà on pouvait avoir un moment comme ça, un momentum où tout le monde pouvait s'allier autour d'un dénominateur commun et de, voilà, de porter des sujets fondamentaux pour tout le monde, ça serait plutôt intéressant.
Ce serait une bonne nouvelle, ouais.
Ce serait une bonne nouvelle. Ce serait pas mal.
Ouais, si vous nous entendez, hein, voilà, bon. merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps de partager vos réflexions avec nous aujourd'hui sur ces deux sujets d'actualité politique. On va passer à vos actualités, ce dont vous vouliez nous parler, vous. Angela, est-ce que ça te dirait de commencer?
Oui, bien sûr. Eh ben, d'abord, merci pour cet après-midi. C'était vraiment très, très chouette, très, très cool de discuter avec vous de ces deux sujets très, très importants. Voilà, moi, je prends du coup quelques minutes pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure dans ma présentation sur ces fameuses conférences grand public qu'on aimerait adapter en podcast. Donc en fait, le constat de départ, c'était de vouloir s'adresser au plus grand nombre. On a essayé avec les conférences de changer les horaires, de changer les jours, de changer les lieux. Et on a rassemblé une poignée, entre guillemets, de personnes qui étaient fidèles à nos valeurs de la Maison de Sang, et on n'a pas réussi à développer davantage. Donc vraiment, le podcast a d'abord cet objectif-là. Et puis, l'objectif un peu plus sous-marin, quoique explicite, puisque j'en parle maintenant, c'est vraiment d'avoir l'occasion de politiser un peu plus le point de vue, d'offrir une vision plus inclusive de nos thématiques sur un prisme féministe, antiraciste, LGBT. Voilà, donc de pouvoir apporter vraiment des connaissances. En fait, l'objectif, c'est vraiment de transmettre des connaissances sur les enjeux que vivent aussi nos institutions de santé à différentes échelles, pour que chacun, chacune puisse évoluer en toute connaissance de cause de ces enjeux et d'être un peu plus libre en termes de... ou libre ou éclairé, des deux en tout cas, j'aimerais bien. Voilà, donc ça s'appelle Santé au pluriel, Libéré au pluriel. J'ai fait naître du coup une page Instagram plus rapidement que prévu puisqu'il y avait le podcast aujourd'hui et que je savais que ça allait me laisser un peu la parole. Mais voilà, l'épisode 0 devrait sortir cet été, donc vraisemblablement au mois de juin pour cette nouvelle aventure.
Super, bah bravo. Écoute, on sera attentive à tout ça. Santé libérée au pluriel.
Santé libérée.
Ok, allez suivre de ce pas sur les internets. Merci beaucoup Angela. On suivra ça et bonne chance pour ce nouveau projet qui est pour le coup super intéressant aussi. Donc c'est cool. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Assia, de quoi voulais-tu parler, s'il te plaît ?
Alors, je souhaitais utiliser ce moment pour rendre un fumage à Sarah Schlitz, du coup, qui est la secrétaire, qui était jusqu'à mercredi, du moins la secrétaire d'État à l'égalité de genre, des chances et de la diversité en Belgique, qui a été contrainte à la démission par une polémique montée de toutes parts par l'extrême droite belge. Donc, pour la petite histoire, elle a utilisé son logo perso dans des communications publiques d'associations qui ont été subventionnées par son secrétariat. Donc, ça questionne l'éthique en politique, mais ce n'est pas une pratique illégale. Et l'extrême droite a utilisé cette erreur, enfin, ouais, on va parler d'erreur, puisqu'elle-même a reconnu son erreur devant le Parlement belge. Et a demandé sa démission. Donc ça a été totalement monté en épingle, ça a occupé les médias pendant de nombreux jours jusqu'à qu'elle démissionne. En fait, on s'aperçoit maintenant qu'en fait c'est pas tant son erreur sur l'utilisation du logo qui posait un problème à l'extrême droite, mais bien le programme et les luttes qu'elle portait dans son secrétariat. Donc elle a fait avancer comme personne la lutte féministe, la lutte antiraciste et la lutte contre l'LGBTphobie en Belgique. Et c'était plutôt ça, le problème de l'extrême droite. Donc tout ça pour dire que l'extrême droite, dès lors qu'elle a un peu trop d'audience, dès lors qu'elle est un peu trop normalisée, elle arrive à couper les têtes de toutes les personnes qui font avancer les luttes qu'elle conspue. Et que du coup, il est hyper important qu'on soit tous et toutes, peu importe dans n'importe quel pays d'Europe, dans la lutte contre l'extrême droite et qu'on prenne un peu la mesure de la gravité de la situation.
Et qu'on se finisse aussi face à tout ça. Effectivement, merci beaucoup Assia pour ce fémage. Anne-Claire, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Alors, je vais vous parler d'une de mes obsessions. Donc, j'ai deux obsessions dans la vie. J'ai le temps, l'idée du temps, le temps qui passe, le temps qu'on met, voilà, les injonctions temporelles qu'on peut avoir, etc. Reliées à l'idée de frustration, parce qu'on est tous frustrés d'une certaine façon d'avoir l'impression de manquer.
Qui est ta deuxième obsession ? Non.
Qui est un peu, voilà, la deuxième obsession reliée. Et j'ai entendu parler d'une mission. On est en train de dépouiller les résultats de cette mission. Cette mission, elle est fascinante. Elle s'appelle Deep Time. Deep Time, ça a eu lieu le 14 mars 2021. Il faut savoir qu'il y a 15 personnes qui sont allées 40 jours dans une grotte de Lombrie. Ils ont été coupés, évidemment, du soleil. Ils n'avaient pas de montre, etc., etc. Ce sont des chercheurs explorateurs. À la base, il y a un chercheur explorateur, mais il y a des gens qui venaient d'autres horizons. Et l'idée, c'était de faire évidemment des recherches et d'analyser en fait sur un groupe humain qui doit travailler ensemble, qui n'a pas de notion de temps, voilà, qu'est-ce qui se passe et comment ça s'organise. En fait, il y a déjà eu des opérations qui ont été menées comme ça dans les années 60-70, et les gens étaient déprimés. Ce qui ressortait de là, c'était il n'y a pas de soleil, c'est déprimant, on n'en peut plus, etc. Et là, avec l'opération qui a été menée donc, en 2021, c'était il y a 2 ans, ils sont en train de regarder donc, les résultats, contrairement à la déprime qu'il y a pu y avoir dans les années 60-70, là, il y avait une notion de liberté. Et en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est que finalement, dans nos vies, on est submergé d'informations temporelles, où nos cerveaux sont un peu sursollicités, où on n'a plus d'espace de pause, de recul, etc. Soudain, dans cette grotte, en fait, les équipes étaient plus confrontées à des injonctions. Donc, passer quelques cycles et la désorientation un peu normale et les ajustements entre eux, ils ont trouvé il y a eu une forme de réveil un peu cognitif et en fait, ils ont eu la sensation de reprendre en main leur capacité décisionnelle, pardon, organisationnelle, j'y arrivais, leur capacité décisionnelle, organisationnelle, et ça m'interroge en fait sur jusqu'à quel point en fait on va supporter cette accélération de nos vies et ce temps condensé en fait qu'on a en permanence qui nous empêche de prendre du recul. Pour faire la boucle avec nos sujets, par exemple, Mayotte, c'est une réponse immédiate à un problème qui existe depuis longtemps. Et en fait, on ne fait pas la part des choses entre ce qui est urgent et immédiat, de ce qui est stratégique, hyper important, mais pas forcément urgentissime. Et je crois qu'on a besoin voilà, de s'extraire parfois de ces injonctions extérieures, de reprendre notre propre capacité pour essayer de réfléchir, d'être plus créatif en fait. On abordait la question de la créativité aussi démocratique, etc. Et ça nécessite parfois des pas de côté et d'essayer de faire attention à cette fatigue mentale. Donc dû à toutes ces sursollicitations. On parlait des élus aussi, il y a un tabou chez les élus, c'est le burn-out des élus, peut-être aussi des militants, je pense que ça existe, et voilà, qui sont aussi bombardés, etc. Et comment est-ce qu'on peut se mobiliser si tout d'un coup aussi on est soumis à ces formes d'injonctions. Donc moi, ça m'intéresse énormément. Voilà, je vais essayer de reprendre le podcast, mais je ne suis pas très disciplinée. Je suis très disciplinée ou indisciplinée dans ma discipline. Ça s'appelle les moments vacants. J'ai arrêté là pendant un an, je vais essayer de reprendre. Et voilà, ce sujet du temps lié à toutes nos frustrations, qu'elles soient démocratiques, qu'elles soient personnelles, individuelles, peu importe. La frustration, finalement, c'est du ressentiment au présent, en fait. Donc, si on a des frustrations actuelles, c'est ce qui va créer plus tard une forme de ressentiment. Ben voilà, ça m'intéresse. Donc, la grotte de l'ombrie et les 15 personnes qui sont parties et l'impact que ça peut avoir sur nous, sur nos cerveaux.
Génial, super intéressant. Merci beaucoup Anne-Claire. C'est cool, on n'a pas du tout l'habitude en plus d'aborder ce type de sujet sur Popol. Donc vraiment très cool. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup à toutes les trois. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à celles et ceux qui nous écoutent, à celles et ceux qui sont là depuis des années, des mois, des semaines, des jours, des heures peut-être, à écouter Popol, à lire Popol Post. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast politique préféré.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.